Mondoscopie, un magazine coproduit par RCF et Radio Vatican, présenté par Bernard de Cotigny.
Noir, fondant, au lait, praliné, Mondoscopie est gourmand cette semaine. Avec les fêtes de Pâques, le chocolat se fait œuf, poule ou encore lapin, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. De la fève de cacao au petit croque, de la plantation à la dégustation, je vous invite au voyage. Pâques et ses traditions. Celle de s'offrir des œufs est ancienne et remonte bien au-delà du christianisme. L'œuf est en effet symbole universel de vie, de fécondité, de renaissance. En cette fête de la résurrection du Christ, religion et tradition se mélangent. Claude Elft a édité chez Desclée de Brouwer L'œuf de Pâques avec des textes de Catherine de la Clergerie et des illustrations d'Aurélia Fronti. Un livre bien beau où témoin de la foi et cadeau de roi, l'œuf de Pâques explique son histoire.
L'histoire de l'œuf de Pâques nous a intéressés parce qu'elle est vraiment extrêmement ancienne. Quand on s'intéresse à l'histoire des traditions, on trouve même qu'à travers le monde et à travers les époques, l'œuf a la même signification de promesse de vie et d'éternité. Et ça, on le trouve dans les cosmogonies qui expliquent l'invention du monde. Il y a un exemple en Chine où le monde est contenu sous la forme d'un géant qui va grandir d'abord très très lentement, plusieurs milliers d'années à l'intérieur d'un œuf. Et puis lorsque l'œuf éclot, le géant lui va apparaître et de toutes les parties de son corps vont naître les parties de l'univers. Il y a une autre tradition dans les pays du Nord, par exemple en Finlande, où la tradition c'est que un œuf s'est brisé et sa coquille est devenue le ciel, le jaune, le soleil, le blanc, la lune, et ainsi commence le monde. Donc on a constaté que cette force de l'œuf avec sa forme parfaite et puis ce qu'il contient de promesses de vie a vraiment été un symbole de naissance et de renouveau. Plus proche de nous, il y a les Égyptiens qui ont aussi une tradition d'invention du monde à l'intérieur d'un œuf, qui lui est à la charge d'une divinité, le dieu Thoth à la tête d'Ibis, qui va s'occuper de cet œuf pour le faire éclore. Et puis ensuite, plus tard, dans leur pyramide, les Égyptiens vont placer près des momies un œuf peint en rouge, qui symbolise alors là la vie future qu'on espère pour ce disparu, qui aura une autre vie au royaume des ombres de l'Égypte antique. Tout ça est très, très fort, hein, à traverser les siècles. Et puis, ça va se retrouver d'une autre manière, bien sûr, mais toujours avec cette signification de renouveau dans la tradition chrétienne. Alors, nous, dans notre petit livre, on n'est pas remonté avant le Moyen-Âge, mais on a expliqué qu'à cause du carême, où, bien sûr, on ne mange ni viande ni œufs, les paysans faisaient cuire leurs œufs pour attendre la fin du carême. Et on faisait bénir dans de grands paniers dans l'église le jour de Pâques où le carême est rompu. Et on s'offrait mutuellement ces œufs en se réjouissant donc de la vie éternelle le dimanche de Pâques.
Alors les œufs que l'on cuisait pour qu'ils se conservent durant les quelques semaines de carême, ces œufs ont été peints, décorés selon là aussi maintenant diverses traditions. Ces œufs sont aujourd'hui encore très très prisés, très recherchés. Et puis cet œuf va se vider un jour et contenir des choses et il va se transformer notamment en œuf en chocolat. Chose qui aujourd'hui est tout à fait au goût du jour, l'œuf de chocolat à Pâques.
Oui, ça c'est à partir du XVIIIe siècle. Hein, on a rapporté en Europe le cacao d'Amérique du Sud. Donc c'était aussi un signe de richesse absolue d'avoir ses premiers œufs en chocolat. Et maintenant que le chocolat est beaucoup plus abordable, c'est sous cette forme qu'on le retrouve d'une manière, la manière la plus populaire et peut-être la plus délicieuse.
Est-ce que dans votre livre, vous parliez des manières de peindre? Comment peint-on un œuf? Est-ce qu'il y a une technique particulière? Comment faut-il s'y prendre pour décorer un œuf?
Eh bien, la meilleure peut-être, c'est de reprendre celle des Perses, Donc il y a vraiment 4000 ans, qui savaient déjà teindre les œufs avec des produits naturels. Hein, on peut faire bouillir un œuf avec des pelures d'oignons qui donnent un très joli ton roux à l'œuf, entre tous les jaunes, toutes les teintes de jaune. On peut obtenir des teintes avec les orties qui donneront un beau vert ou plus délicat, le safran. Et c'est la meilleure façon de conserver à l'œuf, bien sûr, sa faculté d'être mangé. Et on peut aussi, il y a des techniques non toxiques, et il y a des peintures spéciales pour enfants qui permettent de faire des décors de toutes sortes. Et de grands artistes n'hésitent pas à en peindre. Ensuite, ces œufs-là, tout simples, les œufs de poule qu'on partage et qu'on s'offre, eh bien, parce que les rois et les princes ont toujours envie de choses précieuses, se sont diversifiés. Il y a une tradition d'œufs en nacre ou en pierre précieuse que faisait l'orfèvre français Fabergé. Et on sait aussi que le peintre Watteau avait décoré des œufs de Pâques pour Victoire, l'une des filles de Louis XV. Et on peut regarder les magnifiques traditions russes populaires où on reproduisait même quelquefois les scènes de la vie quotidienne, les animaux, les traîneaux. Mais les enfants, eux, aiment en général effectivement faire des points, faire des rayures. Le problème, c'est de faire tenir l'œuf pour le peindre. Il faut le mettre sur un petit cylindre en papier et le retourner une fois que c'est sec d'un côté. Il faut être patient.
Finalement, donc aujourd'hui, on peut se réjouir donc de ce que la tradition de cacher des œufs dans le jardin pour que les enfants les trouvent soit perpétuée, avec quand même quelques petites particularités. C'est que on peut imaginer que ce soit toujours la poule qui pond l'œuf en l'occurrence, mais il y a aussi des traditions qui parlent du lièvre, notamment les traditions nordiques, allemandes, je crois, germaniques.
Oui, c'est donc un lièvre. Alors comment la poule est devenue le lièvre, c'est un mystère qu'il faut que les folkloristes, les spécialistes trouvent encore. Mais c'est vrai que c'est le lièvre a la particularité de cacher les œufs. Mais il y a aussi une autre tradition qui sont les cloches des églises qui donc 3 jours avant Pâques ne sonnent plus. Et dans l'imaginaire, elles sont devenues les voyageuses qui, en revenant de Rome, vont apporter les œufs de Pâques qui tombent dans les jardins et qui attendent les enfants.
Il est l'un des rares chocolatiers français à fabriquer son propre chocolat à partir de fèves de cacao sélectionnées dans les meilleures plantations du monde. Véritable globe-trotteur, François Pralu est un authentique passionné, au point d'être devenu récemment le propriétaire d'une plantation de 16 hectares à Madagascar sur l'île de Nosibé. Là, le cacao, fin et acide, dégage des saveurs de fruits rouges. Et oui, François Pralu parle de cacao comme l'on parle de vin et de grands crus.
Alors évidemment, on est en plein, bien sûr, dans la fabrication des œufs, des cloches et des poules en chocolat de toutes sortes. Alors pour moi, c'est un petit peu différent puisque moi j'ai plutôt la main dans les fèves de cacao qui arrivent directement des pays producteurs, que ce soit d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale ou du continent africain et même d'Asie. Donc moi je suis plutôt dans la torréfaction, le broyage, on appelle ça aussi le conchage du chocolat, hein, du malaxage, qui peut durer plusieurs jours.
Alors c'est ce que l'on connaît moins, je dirais, de l'œuf en chocolat, c'est-à-dire comment il est fabriqué et d'où il vient. Donc pour partir du début, je dirais, l'arbre, donc le cacaoyer, déjà ce mot-là fait rêver, et la fève de cacao. Alors quand on l'a récolté, cette fève de cacao, et puis vous nous direz s'il y a différentes espèces et différentes qualités, que lui fait-on subir à cette fève?
Oui, bien sûr, il y a plusieurs qualités, hein. Il y a deux, trois grandes qualités de cacao. Hein. Tous les cacaos d'origine viennent des hauts plateaux amazoniens. Il y avait deux grandes variétés, un peu comme le Robusta, on va dire, et un peu l'Arabica. Hein. Ils s'appellent le Forastero et le Criollo. Et ils ont été, par la suite, transportés sur le continent africain et même le continent d'Asie. Donc la cabosse de cacao est un gros fruit en forme de ballon de rugby qui pousse à même le tronc du cacaoyer. Quand on récolte cette cabosse, on l'ouvre à l'aide d'un coupe-coupe et on en extrait à peu près une quarantaine de fèves de cacao enrobées d'une pulpe blanche, hein, d'un fruit qui est gélatineux. Et ces fèves de cacao vont être mises dans des grandes caisses, des grandes cuves en bois, un petit peu comme le raisin. Et là, on va les mettre en fermentation pendant 6 à 9 jours. Et on va aller dans une fermentation très 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 poussée, puisqu'on va aller jusqu'à une fermentation acétique, c'est-à-dire que c'est vinaigre, quoi. Hein. Ça finit avec carrément, ça sent l'acétone au-dessus des cuves de fèves de cacao. Ensuite, ces fèves de cacao vont être étalées sur des clés en bois ou des nattes, suivant les pays, au soleil. Elles vont être ratissées tous les jours, malaxées, au soleil pour être séché. Donc là, c'est une opération qui peut durer à peu près 10 à 12 jours. Ensuite, les fèves vont être triées. En général, sont triées une par une à la main et conditionnées en grands sacs de toile de jute et transportées ensuite dans les pays transformateurs. Évidemment, ça emploie beaucoup de monde.
Alors, il y a quelques années, un sujet de polémique est apparu en Europe. C'était en 94, je crois. Mmh. On aurait permis d'utiliser d'autres choses que la fève de cacao et le beurre de cacao pour la fabrication du chocolat, à savoir des graisses végétales. On en est où, là, sur cette question-là?
Cette loi a été votée et acceptée, malheureusement. C'est-à-dire qu'avant, dans la législation du chocolat, il devait y avoir dans le chocolat de la fève de cacao, du beurre de cacao et du sucre. Et éventuellement de la poudre de lait pour le chocolat au lait, point. Depuis que cette loi est passée, on peut remplacer le beurre de cacao d'ajout, hein, parce qu'on rajoute du beurre de cacao dans le chocolat, a été remplacé donc par, peut être remplacé par des matières grasses végétales beaucoup moins chères. C'est une loi qui tire la qualité vers le bas. Ça concerne, vous savez, toute la grande industrie de la chocolaterie avec toutes les barres chocolatées et tout ça. Eux ont de la matière grasse végétale au lieu d'avoir du beurre de cacao. Alors évidemment, pour les producteurs de cacao, les petits producteurs de cacao, c'est un manque à gagner, puisque leur cacao a été utilisé aussi bien pour fabriquer vraiment de la poudre de cacao ou du chocolat, mais aussi pour fabriquer du beurre de cacao.
Alors comment juge-t-on de la qualité d'une fève de cacao, de son arôme? Est-ce que ça se passe un peu comme les grands crus pour le vin?
Tout à fait. Souvent, on peut comparer le chocolat avec les vins pour plusieurs choses. D'abord, les variétés de la plante. Ensuite, bien sûr, le terroir joue beaucoup, comme le vin. Et ensuite, la transformation, c'est-à-dire la fermentation, le séchage, peut jouer aussi dans les arômes que nous allons retrouver dans le chocolat. J'ai un exemple, on achète du cacao de l'île de Vanuatu dans le Pacifique. Eux, ils font sécher le cacao sur la plage, sur des nattes de copra. Et le cacao a un arrière-goût justement de ce copra qu'on retrouve dans le chocolat. Un peu comme dans les vins, dans la vinification ou dans la transformation, on peut trouver des arômes totalement différents suivant les crus ou les origines.
Pareil aussi pour le café, vu que l'on le torréfie aussi finalement. Tout cela me fait penser au fait que bon, pour cette passion-là, on voyage, on cherche, on rencontre des gens. La seule chose, c'est qu'avec le cacao, finalement, il y a énormément plus de produits dérivés et tout est possible, je dirais, avec le cacao.
Ah oui, tout à fait. Bah, le côté, bien sûr, intéressant, c'est d'aller dénicher, chercher et trouver le cru qu'on avait perdu, avec des origines un peu perdues, avec des arômes qu'on ne retrouvait plus. Et puis, étant donné que moi, je ne suis pas dans le monde industriel, donc je peux me permettre d'acheter une toute petite quantité de fèves de cacao, c'est-à-dire 500 kilos, 800 kilos ou une tonne, pour faire un chocolat vraiment d'exception. Évidemment, tous ces petits crus de planteurs n'intéressent pas forcément les industriels parce qu'ils n'ont pas des quantités suffisantes. Mais moi, par contre, c'est des crus qui m'intéressent. Alors évidemment, ça nous amène à rencontrer des gens, de visiter leurs plantations, de voir comment ils transforment, comment ils vivent et comment ils en vivent du cacao, bien sûr.
Alors, produire un chocolat d'exception, on peut dire que vous êtes tombé dedans tout petit et que, enfant, je suppose, je vous imagine, avec des moustaches de chocolat autour de la bouche, d'avoir trempé votre doigt dans les casseroles de votre père.
Oui, c'est vrai que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je suis pratiquement né dans les bassines de chocolat et dans la maison, en hiver ou enfin pendant les fêtes de Noël, bien sûr, il y avait plein de femmes qui remplissaient les ballotins de chocolat, qui pliaient les papillotes. Et moi, j'étais au milieu de tout cet environnement de chocolat, sans parler, bien sûr, de quand j'allais me promener dans le laboratoire de mon père, où tous les compagnons travaillaient le chocolat, les ganaches, les pralinés et autres choses comme ça. Mais mon père, lui, ne fabriquait pas le chocolat de couverture. Il m'a fait faire un stage chez un grand chocolatier de Lyon, M. Bernachon, qui, lui, m'a donné la passion de fabriquer le chocolat à partir des fèves de cacao.
Toute votre passion est dans la recherche de la matière première. Puis, il y a une équipe autour de vous qui finalement, arrive au produit fini. Dans les œufs de Pâques, moi qui suis ici en Italie, qui vous parle de Rome, je peux vous assurer qu'il y a des œufs dans chez certains chocolatiers énormes ici en Italie. Alors, je ne sais pas si on trouve ça en France.
Alors, nous, on fait des œufs qui sont relativement grands, parce qu'il y en a un qui fait à peu près 1,10 m de haut et qui doit faire dans les 30 kilos. Voilà, ça c'est le plus gros des œufs que nous fabriquons. Bon, bien sûr, on essaie de les décorer avec des fleurs printanières, des écritures, des dessins, des peintures. Cela dit, chez nous, on reste assez traditionnel dans l'œuf ou dans les cloches, c'est-à-dire des produits traditionnels de Pâques. Ce qui est intéressant, c'est que l'œuf de Pâques, aujourd'hui, n'est pas forcément offert que aux enfants. Beaucoup d'adultes offrent maintenant un œuf de Pâques, mais avec un chocolat de grande qualité. Donc les adultes sont autant concernés aujourd'hui que les enfants. Alors bien sûr, on fabrique énormément de chocolat au lait, parce que les enfants quand même sont peut-être moins amateurs de chocolat à 75% de cacao. Mais en tout cas, tout ce chocolat noir est destiné aux adultes, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'adultes qui s'offrent des cloches et des œufs au chocolat.
Ce sont deux petites îles au large du Gabon. Elles ont séduit, il y a une vingtaine d'années, Jean-Pierre Ben Saïd, un voyagiste français. Depuis, il est devenu le consul honoraire à Marseille de celles qu'on appelle les îles du milieu du monde, ou encore les îles chocolat. Et il n'est pas le seul à être tombé sous le charme de Sao Tomé et Principe.
Alors, l'île chocolat, eh bien parce que le cacao, qui est à l'origine, bien sûr, de l'élaboration du chocolat. Et le cacao a traversé l'Atlantique d'ouest en est la première fois en 1822 pour venir sur l'île de Principe. Donc Principe et Sao Tomé, c'est le berceau du cacao africain. Et ces toutes petites îles, minuscules, ont été en 1913 le principal producteur mondial de cacao. Alors aujourd'hui, la production est très limitée, moins de 4000 tonnes par an, donc c'est vraiment rien sur le marché international, mais c'est toujours un cacao d'exception, et depuis plus d'un siècle, bien l'île a ce surnom, ce très joli et très gourmand surnom d'île chocolat. Quant à l'appellation de île du milieu du monde, eh bien là, c'est une notion un petit peu géographique, puisque Sao Tomé se trouve exactement posée sur la ligne d'équateur, donc latitude zéro. Et la latitude zéro, alors bien entendu, c'est une notion géographique. Les notions de longitude par rapport à Greenwich, bon, ça c'est une convention, mais si on prend cette convention et on cherche le point 0,0, donc l'intersection de la latitude zéro et de la longitude zéro, eh bien l'île, le point de terre le plus proche, sera Sao Tomé, donc à 0 de latitude et 6,28 de longitude nord. Donc c'est l'île la plus au centre du monde.
Alors ces îles, vous venez de le dire, aujourd'hui, ce ne sont pas des îles qui sont parmi les grands producteurs de fèves de cacao dans le monde. On peut imaginer que pour les producteurs, il existe des problèmes. Et que faire finalement? On connaît aujourd'hui le commerce équitable. Et je crois que sur l'île, récemment, il y a eu une initiative pour justement favoriser le cacao solidaire, comme on l'appelle.
Tout à fait. Donc les chocolatiers, qui sont généralement des hommes et des femmes de talent, mais également de cœur, donc s'intéressent de plus en plus à la production, donc au cacao lui-même et aux conditions dans lesquelles ce cacao est produit dans les différents pays de production tout autour de la ceinture intertropicale et donc en particulier à Sao Tomé et Principe. Alors nous avons, il y a environ un mois, organisé un voyage pour six chocolatier français. Voyage un peu touristique, bien sûr, mais surtout voyage de découverte professionnelle. Et ces chocolatiers avaient décidé, connaissant les difficultés de vie et les difficultés de travail des petits producteurs à Sao Tomé, ces chocolatiers avaient décidé d'apporter une aide. Et simplement, l'aide, bien, c'est toujours bon quand on aide tout court, mais c'est mieux quand on aide de manière à permettre de produire, à permettre de durer, et donc pas simplement de faire une forme d'aumône ou de charité, parce que ça n'a pas de suite, et en même temps c'est moins digne qu'une aide solidaire qui permet d'avancer. C'est dans cet esprit et dans ce contexte que ces six chocolatiers français ont décidé de créer une association loi de 1901, donc une association à but non lucratif, pour se regrouper, de mettre un certain financement dans cette association et qu'avec ces fonds, eh bien, dans un premier temps, il y a 12 petits planteurs à Sao Tomé qui ont été sélectionnés. Les 6 chocolatiers français ont chacun pris en quelque sorte en parrainage 2 petits planteurs de l'île de Sao Tomé. Ils vont, avec le budget de cette association, organiser l'installation de bacs de fermentation et de clés de séchage, donc les outils techniques qui vont permettre à ces petits planteurs de passer du simple stade de la cueillette du cacao frais et de la vente de ce cacao frais au stade de la transformation, donc de la fermentation et du séchage. Qui dit transformation dit valeur ajoutée. Donc ces petits planteurs pourront faire une étape de plus, pourront avoir un revenu meilleur. Le temps d'en arriver là, eh bien, l'association va assurer un fonds de roulement de manière à ce qu'ils puissent continuer à vivre ou à survivre le laps de temps qu'il faudra, c'est-à-dire quand même plusieurs mois avant d'avoir du cacao sec. Et pour boucler la boucle, les chocolatiers français donc de cette association se proposent ensuite d'acheter une bonne partie, si ce n'est la totalité, de ce cacao pour élaborer en France leur chocolat ou une partie de leur chocolat avec ce cacao, donc, et pouvoir divulguer l'image d'un cacao complètement et d'un chocolat complètement solidaire, puisqu'il aura été solidaire à la fois des petits planteurs qui sont à l'origine du cacao et organisé par les mêmes chocolatiers qui ensuite le transformeront en bonbons, en ganaches, en tablettes, etc. et le proposeront aux gourmands et aux gourmets.
Alors rien qu'à vous entendre, on aura compris que ces îles vous ont séduit et vous séduisent aujourd'hui encore. Tout cela remonte à quelques années, je crois, où finalement on vous a fait découvrir cet endroit, un endroit paradisiaque, mais pauvre aussi. Hein. L'île reste un endroit très pauvre, ancienne colonie portugaise. Aujourd'hui, que peut-on faire finalement pour aider ces îles? Je suppose qu'on peut les visiter et faire du tourisme.
Bien sûr, la meilleure aide que l'on puisse apporter à Sao Tomé et à Principe, c'est de s'y rendre, de les visiter, parce que ces deux îles sont vraiment merveilleuses, elles sont très belles et c'est une pure merveille.
Alors, charme de ces îles qui a opéré sur vous, à tel point que vous en êtes devenu aussi le consul en France, un poste qui n'existait pas, et une charge que vous exercez, je crois, de manière gracieuse.
Depuis maintenant plus d'une douzaine d'années, j'ai à la fois l'honneur et le grand plaisir de représenter ces îles, d'essayer de les faire connaître, d'organiser des actions à la fois de solidarité, mais en même temps de promotion, que ce soit dans le cadre du tourisme, bien sûr, mais aussi pour faire connaître ce fameux cacao et chocolat dont nous venons de parler, mais aussi des actions de solidarité, comme par exemple un jumelage entre un lycée à Marseille, le lycée Saint-Exupéry, et le seul lycée de Sao Tomé, qui a au passage quelque chose comme 6000 élèves, alors qu'il était prévu pour 1000 élèves seulement à sa création, ou alors des parrainages d'enfants dans un pensionnat du nord de l'île, et différentes actions pour essayer d'apporter de l'aide, des contacts, et aussi donc un mieux-être, si on le peut, même de manière très modeste, à nos amis saint-thoméens.
Si le voyage vous tente, faites dès à présent un tour sur le www.sao-tomé.st. pour un avant-goût de paradis. Merci en tout cas à Jean-Pierre Ben Saïd, à François Pralu et à Claude Elft. Fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine.